Le débat du jour. Sébastien Duhamel.
Bonsoir à tous. Certains parlent de retrouvailles, mais il y a toujours les dossiers qui fâchent. Un 28e sommet de l'OTAN très observé ce lundi à Bruxelles. Une organisation du traité de l'Atlantique Nord mise à mal, minée par les divisions passées ou récentes. Le sujet n'est pas nouveau, mais la donne a changé. Avec un nouveau locataire à la Maison-Blanche, Joe Biden semble-t-il plus enclin à travailler avec ses partenaires européens. Pourtant, de ce côté de l'Atlantique, il y a également la Turquie, manifestement déterminée à défendre ses propres intérêts, quitte à jouer parfois un double jeu avec Moscou. Il y a aussi les nouveaux défis extérieurs à l'Alliance, la Chine, le changement climatique, entre autres. Pour y faire face, l'OTAN peut-elle survivre dans sa forme actuelle? Doit-elle se réinventer? C'est notre débat du soir.
RFI.
Et pour répondre, pour en débattre, avec nous en studio, Pierre Grosser, historien, spécialiste des relations internationales. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à Sciences Po, vous avez écrit « L'histoire du monde se fait en Asie » aux éditions Odile Jacob. Avec nous également, par téléphone, Amélie Zima. Bonsoir Amélie Zima.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse en sciences politiques à l'Université Paris 1, rattachée au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre-européens à l'EHESS. Et puis, avec nous enfin, Bruno Tertret, également par téléphone, politologue, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, auteur de nombreux livres, entre autres « L'Atlas des frontières, murs, conflits, migrations » aux éditions Les Arènes. Bonsoir Bruno Tertret.
Bonsoir.
Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Un petit tour de table pour commencer, si vous le voulez bien. Je le disais, il y a eu un sommet aujourd'hui à Bruxelles, très observé. Il y a eu une déclaration finale pour conclure ce sommet, un texte de 45 pages. Beaucoup de sujets abordés, 79 points. L'armement russe, les ambitions chinoises, les menaces dans l'espace et dans le cyberespace. Beaucoup, beaucoup de sujets évoqués. Pierre Grosser, pour démarrer. Selon vous, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de ce sommet de l'OTAN et qu'est-ce qui va en ressortir?
Écoutez, la première chose, c'est qu'à l'époque de Trump, hein, au sommet de 2018 et au moment de l'anniversaire en 2019, on parlait beaucoup de divorce. Mmh. Et là, on parlait de retrouvailles, c'est le terme que vous employez. Mmh. On parle de la famille de l'OTAN qui se retrouve. Donc, évidemment, il y a toute une symbolique qui est très importante et qui est d'autant plus importante qu'il y a une rencontre qui va arriver entre Biden et Poutine.
Mercredi, en Suisse.
Voilà. Donc, évidemment, c'est important de montrer qu'on s'entend bien et que la famille est retrouvée de cette manière-là. Donc il y a cet aspect symbolique qui, je crois, est absolument essentiel. À côté de ça, il faut bien voir que pour Biden, c'était une façon de revenir finalement à une politique relativement traditionnelle à l'égard de l'Europe.
Rompre avec l'héritage de Trump. L'unilatéralisme américain, c'est ça que vous
voilà, dire. C'est ça. Enfin, avec un vocabulaire qui a été assez incohérent, parce que des fois, il était très, très dur sur l'OTAN. Après, il était plus positif sur l'OTAN, notamment quand le président Macron avait fait quelques critiques et avait parlé de mort cérébrale. Donc, c'était assez difficile à lire. L'inquiétude que l'on peut avoir quand même, c'est de savoir est-ce que, avec Biden assez âgé, qui est héritier finalement d'une pratiquement du XXe siècle, est-ce que c'est pas un peu la dernière chance d'avoir cette famille transatlantique, parce qu'on n'est pas certain, quand on voit les Républicains, quand on voit une poussée aussi d'une aile gauche dans le Parti démocrate, de gens qui sont moins intéressés par l'Europe, qui regardent ailleurs, qui regardent sur la politique intérieure des États-Unis. Donc voilà, est-ce qu'il faut se réjouir durablement de cette famille retrouvée, ou alors est-ce qu'il faut se dire que c'est, enfin, penser que c'est, j'allais dire, non pas le dernier soubresaut, mais enfin, en tout cas, un moment un peu unique qui peut-être ne pas se reproduire d'ici une dizaine d'années.
Un nouvel élan, en tout cas.
Là, oui, visiblement.
Amélie Zima, je vous pose la même question. Ce sommet de l'OTAN, il était attendu. Qu'est-ce que vous en retiendrez? Ce côté retrouvaille également de l'Alliance?
Également, oui, retrouvaille, mais aussi adaptation. Puisque ce sommet, en fait, il est sous le signe de l'adaptation stratégique de l'OTAN. Il faut se rappeler qu'il y a un rapport qui avait été commandé par un groupe d'experts présidé par l'ancien ministre allemand Thomas de Maizière et qui a rendu ses conclusions en 2020. Et en fait, ce rapport vise à améliorer l'alliance, à améliorer la concertation entre alliés, à insister sur les valeurs communes, libérales et démocratiques que partageraient les alliés, mais également aussi renouveler l'alliance d'un point de vue stratégique, en prenant en compte de nouvelles menaces comme la désinformation, en proposant d'étendre le rayon d'action de l'OTAN, en organisant des sommets entre ministres de l'Intérieur pour prendre en compte le terrorisme comme un nouvel enjeu de sécurité, également acter la montée en puissance de la Chine.
On y viendra acter, oui, sur la Chine. Oui.
Voilà, des nouveaux défis de sécurité, comme par exemple la question du réchauffement climatique ou du désarmement.
L'OTAN qui se réinvente en quelque sorte et qui élargit son champ d'action.
Exactement. Oui.
Je vais poser enfin la même question, bien sûr, à Bruno Tertrais. Ce sommet de l'OTAN, comme nos deux interlocuteurs précédents, qu'est-ce que vous en retenez, le côté retrouvailles et l'élargissement du champ d'action, on se réinvente?
Non, il n'y a pas de réinvention. En fait, d'abord, ce qui va rester, c'est la photo de famille, plutôt que le communiqué de 45 pages, qui sont des communiqués que absolument personne ne lit, sauf les diplomates. Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le body language, le langage corporel, la photo de famille, les embrassades. On a au moins temporairement passé l'ère Trump, tout en sachant que M. Trump pourrait revenir en 2024. Après, l'adaptation de l'Alliance, oui, mais elle est permanente. Cette adaptation, elle est permanente depuis 1950. Donc, si vous voulez, ce n'est pas tellement une question d'élargissement des missions, parce que finalement, ce n'est pas l'OTAN qui change, c'est le contexte qui change. La Russie est toujours là, mais en plus, il y a maintenant un défi stratégique chinois qui n'est pas une menace militaire pour l'Europe. Mais la Chine investit en Europe, elle investit dans les ports, dans les communications. Et donc, à terme, ça peut poser des problèmes de sécurité pour l'OTAN. Mais on n'est pas en train de changer les missions de l'OTAN. La mission centrale de l'Alliance Atlantique sur le plan militaire, c'est quand même de dissuader la Russie de s'en prendre à ses voisins et de se défendre, bien sûr, contre elle si jamais cette dissuasion échouait. Je crois pas du tout, ce sera mon dernier point, je crois pas du tout que l'OTAN se cherche de nouvelles missions. L'OTAN s'adapte à un contexte qui est forcément changeant, qui est plus complexe et dans lequel on doit se préoccuper également de défis de sécurité plus lointains que ce n'était le cas au temps de la guerre froide.
Donc, il y a des défis extérieurs, c'est évident, on va les évoquer. Il y a aussi les défis intérieurs qui se posent. 30 membres dans cette alliance. Il y a des politiques, des intérêts qui sont divergents, évidemment, parfois. On l'a vu avec la Turquie, notamment, qui est membre de l'Alliance, faut-il le rappeler, mais qui a pourtant été agressive récemment en mer Méditerranée, notamment vis-à-vis des navires français, des navires grecs. La Turquie qui a même acheté, d'ailleurs, un système de défense à la Russie, un système qui est incompatible avec celui de l'OTAN. Question simple, Pierre Grosser, est-ce que l'OTAN, avec la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, c'est encore possible aujourd'hui?
Pour le moment, on ne parle pas de virer la Turquie de l'OTAN. Ce qui est assez fascinant, et on parlait de retrouvailles, de photos de famille, etc., c'est qu'on est revenu à la diplomatie. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que pendant un an, pratiquement, on était sur des visios. Et justement, Tertrais évoquait le langage corporel, le contact physique, les bilatérales. Il y a un nombre incroyable entre le G7 et la réunion de l'OTAN de bilatérales, notamment avec Erdogan.
Il y a une rencontre aujourd'hui entre Emmanuel Macron et le président
Biden,
turc.
Et Biden et Erdogan aussi.
Et également le président américain.
Etc. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de se recréer. Du côté Erdogan, il a mis un peu de l'eau dans son vin ces derniers mois, ce qui, je pense, évidemment, est dans son intérêt. C'est pas par amour absolu de l'OTAN. Ça pose évidemment des problèmes par rapport à tout ce que vous avez dit sur l'affirmation des valeurs démocratiques, état de droit, d'avoir la Turquie à l'intérieur. C'est évidemment, quand on se présente justement comme une alliance de démocratie, c'est évidemment tout à fait problématique. Mais on a aussi besoin de la Turquie. On a besoin de la Turquie au Moyen-Orient. On a besoin de la Turquie sur les questions migratoires européennes. On a besoin de la Turquie aussi, par exemple, sur l'Afghanistan, puisque quand même, à la fois les États-Unis et l'OTAN, qui étaient présents en Afghanistan, s'en vont. Donc la Turquie est un acteur majeur. Donc on en a besoin.
L'OTAN s'engage à assurer la sécurité de l'aéroport international de Kaboul pour justement éviter un retrait trop brutal de l'Afghanistan. C'était une crainte de la Turquie, un argument de la Turquie justement, jouer ce rôle tampon maintenant au Moyen-Orient qui a un retrait
De toute façon, je vais pas reprendre cette phrase un peu bébête, la nature a horreur du vide, mais enfin bon, on l'avait vu après le retrait des soviétiques d'Afghanistan, qui d'ailleurs avait été plutôt réussi, je veux dire, ils n'avaient pas eu de mort dans leur évacuation, mais on sait très bien que vous avez des intérêts, vous avez le Pakistan, vous avez l'Inde, vous avez la Chine qui est très intéressée, les Turcs ont l'impression aussi d'avoir un rôle, il y a l'Iran qui a aussi un rôle, donc bien entendu s'appuyer sur la Turquie, avoir la Turquie qui a une influence aussi en Asie centrale plutôt de son côté, je pense que c'est une bonne chose. J'ai pas dit que c'était la raison majeure pour laquelle on garde la Turquie par la manche, mais évidemment c'est une question importante parce que c'est maintenant une grande puissance. Je pense que c'est une grande puissance, pas une immense puissance, mais une grande puissance au Moyen-Orient, en Afrique, elle est présente en Afrique aussi, dans le Golfe et en Asie centrale.
Amélie Zima, je le disais, la Turquie qui se tourne également quelque peu vers la Russie, elle a acheté récemment un système de défense qui est incompatible avec celui de l'OTAN. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette relation, la Turquie qui joue quelque peu double jeu, vous pensez que c'est encore possible de continuer comme ça? Recep Tayyip Erdogan a effectivement mis de l'eau dans son vin, selon vous, où on va avec la Turquie?
En fait, l'exemple turc montre le hiatus qui existe toujours au sein de l'OTAN entre les valeurs libérales et démocratiques que l'Alliance est censée prôner et en fait l'importance stratégique d'un pays qui contrôle par exemple les détroits, l'accès aux mers chaudes, ce genre de choses. C'est un hiatus qui a toujours existé au sein de l'Alliance. Il faut se rappeler que le Portugal de Salazar était un membre fondateur de l'Alliance, que la Grèce des colonels a été membre de l'Alliance sans problème, sans sanction. Donc c'est un hiatus au sein de l'Alliance qui n'est pas résolu. Et en fait, quand on regarde les déclarations qui sont faites par des dirigeants de l'OTAN ou encore par l'administration américaine sur la Turquie, il est fait mention que la Turquie est un allié de longue date, un allié apprécié, un allié qu'il faut garder au sein de l'OTAN. Mais cela dit, la présence de la Turquie pose un problème de cohésion politique, mais elle pose aussi un problème d'efficacité pour l'OTAN. Efficacité parce que justement la Turquie achète russe, ce qui va à l'encontre du principe d'interopérabilité de l'OTAN, que toutes les capacités sont censées pouvoir travailler ensemble, être standardisées. Et ça, c'est la clé de voûte de l'efficacité de l'Alliance quand même. Et il y a eu aussi un autre problème, c'est qu'il y a eu quand même une purge de l'armée turque par le gouvernement Erdogan. Donc ça pose un problème aussi d'efficacité. Et puis, on se rend compte que la Turquie, dans certaines de ses actions, est plus souple, en fait, que d'autres pays membres. C'était le cas récemment avec la Biélorussie, quand l'avion a été détourné pour arrêter de force l'opposant Roman Pratashevich. L'OTAN a fait un communiqué, mais un communiqué qui était très soft, en fait. Et cette teneur très légère du communiqué, en fait, était due notamment à l'influence de la Turquie, qui ne voulait pas que l'OTAN s'oppose frontalement à la Biélorussie, demande, par exemple, la libération de tous les prisonniers politiques, ou alors suspend complètement la coopération, ce genre de choses. Donc on voit des différences en fait entre la Turquie et les autres alliés, mais sans que cela aille jusqu'à la rupture, évidemment.
Bruno Tertré, votre avis sur ce point-là, la Turquie. C'est une épine dans le pied de l'OTAN, mais un allié indispensable.
Oui, le problème, c'est qu'il y a peut-être un moment où ça deviendra plus une épine qu'un allié indispensable. Mes collègues disaient à juste titre que c'est pas la première fois qu'on a un régime autoritaire au sein de l'OTAN, mais c'est quand même une alliance dans laquelle on est censé partager idéalement les mêmes intérêts et les mêmes valeurs, et sinon au moins l'un des deux. Le problème avec la Turquie de M. Erdogan, c'est qu'on partage aujourd'hui, je dirais, ni l'un ni l'autre. C'est pas le tout de pas avoir les mêmes valeurs, mais si en plus on n'a pas les mêmes intérêts, il y a quand même un souci. Donc ça fait quand même plusieurs années que la Turquie est un peu le trublion de l'OTAN. Emmanuel Macron a appelé une clarification, je cite, de ses relations avec ses alliés. Je ne pense pas que celle-ci aura lieu. Je ne pense pas non plus que les alliés adopteront ce fameux code de bonne conduite entre alliés que la France appelle de ses voeux. Mais en tout cas, comme on le voit depuis plusieurs mois, pour l'instant, M. Erdogan est plutôt dans une logique d'être un peu plus conciliant, une logique de conciliation, mais je crois que c'est tactique et temporaire. Je pense que nous aurons de nouveau des problèmes avec la Turquie. Quand je dis nous, c'est les principaux pays européens de l'Alliance, et ça sera surtout les États-Unis, puisque avec Joe Biden, M. Erdogan a trouvé quand même un président américain qui est beaucoup moins enclin à faire ami-ami avec lui que ça n'était le cas avec M. Trump. Donc, affaire à suivre, et je crois que ça va rester, comme vous le disiez tout à l'heure, une épine dans le pied, mais vous savez très bien que, en tout cas, je le rappelle, qu'on ne peut pas exclure un membre de l'OTAN, donc la Turquie restera membre de l'OTAN jusqu'au moment où peut-être un jour elle partira, ce qui serait sans doute une mauvaise chose. Ça serait créer un précédent, à mon avis, fâcheux. Et puis, comme mes collègues l'ont rappelé, c'est aussi un pays dont on a besoin.
Merci Bruno Tertrais. Il est 19h44 ici à Paris.
Le débat du jour sur RFI. Sébastien Duhamel.
Le débat du jour, l'OTAN. L'OTAN peut-elle survivre dans sa forme actuelle ou doit-elle se réinventer? On vient de voir avec nos interlocuteurs les défis intérieurs, si l'on peut dire, les retrouvailles et les divisions avec la Turquie. On va maintenant voir les défis extérieurs. Il y a bien sûr, Pierre Grosser, la Russie. Cela reste, nous dit-on, la préoccupation numéro un de l'Alliance. On fait bloc à nouveau contre la Russie au niveau de l'OTAN et on hausse le ton.
En fait, c'est aussi d'une certaine façon un problème intérieur, c'est-à-dire que vous avez, selon les pays, une hiérarchie d'intérêts qui peut être différent et de perception de menaces. Et effectivement, du côté des pays baltes, par exemple, ou de la Pologne, et là aussi, Biden a rencontré les dirigeants des trois pays baltes, la Russie, évidemment, a une préoccupation majeure. On le voit dans l'opinion française, par exemple, que la question du terrorisme est plus importante, le président Macron, dans les années précédentes, voulait non pas un soutien de l'OTAN dans le Sahel, mais enfin bon, une certaine forme de soutien, au moins moral, si ce n'est pas militaire, puisque c'est vraiment hors zone, même si intervenu en Libye. Et donc la question terroriste a l'air d'être très importante pour lui. Ça ne veut pas dire que la Russie ne l'est pas. Mais donc voilà, selon les pays, vous avez des priorités qui peuvent être différentes. Alors ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'effectivement il y a énormément de choses dans le communiqué final sur la Russie, vraiment une liste assez lourde. Mais je pense que c'est en partie aussi lié à la rencontre dont nous avons parlé tout à l'heure entre Biden et Poutine. Il faut montrer que voilà, on fait bloc.
On évoque notamment dans cette déclaration finale le renforcement militaire croissant de la Russie, sa posture plus affirmée, ses nouvelles capacités militaires innovantes et des activités provocatrices. On s'inquiète notamment de la stratégie nucléaire de la Russie. C'est pour vous un moyen d'hausser le ton à deux jours de cette
Non, rencontre. Parce que ça c'est des choses. Tous ces éléments-là sont. Moi, c'est plus la longueur, si vous voulez, que le contenu qui m'a surpris. Enfin, pas surpris, parce que c'est aussi la raison d'être de l'OTAN. Donc, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est assez long ce que l'on dit sur elle. Ce qui m'a surpris, c'est que finalement, j'ai pas entendu énormément parler de la question ukrainienne, parce que il y a quand même une espèce de serpent de mer depuis un moment, et le président ukrainien.
Et on a vu un regain de tension récemment à la frontière.
On veut un oui ou non de notre entrée à l'OTAN, etc. Et on a l'impression, enfin, encore une fois, moi, j'étais pas sur place, donc je ne sais pas de quoi on a parlé, mais que la question, encore une fois, Géorgie-Ukraine, était, qui est aussi une ligne rouge, évidemment, du Kremlin, a été mise sur la table. Voilà. Donc, je pense que il y a pas des choses totalement nouvelles. On insiste énormément sur la question russe, c'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est qu'on est ferme, on va négocier en position de force et unie, mais il y a un peu de jeu pour discuter avec la Russie. C'est mon interprétation.
Amélie Zima, vous qui êtes chercheuse, vous êtes rattachée au centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre-européens, justement. La Russie,
oui,
ça reste la préoccupation numéro un de l'Alliance?
Et je suis actuellement à Varsovie aussi, où je suis rattachée à l'Université de Varsovie, donc ça donne un poste d'observation aussi assez intéressant.
Ah oui, et ben vous êtes bien placée, effectivement.
Alors, en fait, la position de l'OTAN avec ce communiqué, elle ne change pas vraiment concernant la Russie. Hein, les actions russes sont qualifiées d'agressives, mais ça, c'était déjà le cas dans des communiqués précédents. L'idée aussi qu'il faut maintenir la fermeté et le dialogue face à la Russie et parler d'une seule voix aussi pour éviter que le gouvernement russe n'exploite de dissensions internes à l'Alliance. Et en fait, du point de vue des pays qui souhaiteraient adhérer à l'OTAN, et notamment l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie, que mentionnait Pierre Grosser, en fait, il y a eu un très grand activisme du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui souhaiterait rentrer dans un programme de préadhésion à l'OTAN pour des raisons de sécurité. Il estime que ça protégerait l'Ukraine, mais en fait, ça semble assez improbable puisque l'Ukraine ne contrôle pas tout son territoire, la Géorgie non plus, la Moldavie non plus. Or, quand vous devenez membre de l'OTAN, il ne s'agit pas d'importer des conflits, il s'agit d'avoir réglé tous ces conflits frontaliers. Et donc, ces pays-là, malgré l'activisme, malgré leur volonté de rentrer dans l'OTAN, ça semble en tout cas peu probable. En tout cas, ils ont des soutiens, et notamment ce sont les pays d'Europe centrale et orientale qui, lors de leur sommet après, ils ont fait les pays d'Europe centrale et orientale sont réunis dans un groupe qu'on appelle le Bucarest 9, qui s'est réuni en mai 2021 en présence distancielle avec le président Biden et le secrétaire général Stoltenberg. Et ils ont insisté pour que l'OTAN, en fait, maintienne quand même l'idée d'une politique de la porte ouverte et qu'il soit possible éventuellement que ces pays-là puissent un jour adhérer.
Ça a été rappelé d'ailleurs, effectivement, aujourd'hui, la politique de la porte ouverte de l'OTAN. Bruno Tertrais, vous partagez ce qui vient d'être dit sur la Russie. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. On prolonge.
Non, il n'y a pas de nouveauté. Et la politique de la porte ouverte, j'allais dire que par définition, une alliance comme l'OTAN est ouverte. Le club n'est pas fermé. Mais vous faites bien de parler de l'Ukraine parce que les Ukrainiens et les Géorgiens sont quand même assez déçus de ne pas avoir été invité au moins symboliquement pour une petite réunion ou un déjeuner à côté du sommet, comme ça a été déjà le cas par le passé. Or, il y a eu quand même des déploiements de force, des manifestations, des démonstrations de force militaire russe tout à fait considérables ces dernières semaines. Et on peut se demander ce que ça envoie comme message à Moscou en termes, alors il ne s'agit pas de prendre l'Ukraine et la Géorgie dans l'alliance, mais au moins, il aurait été bon, à mon sens, ça aurait été le bon message de dire, voilà, nous sommes préoccupés par les démonstrations de force russes et nous tenons à la sécurité de ces pays qui, même s'ils ne font pas partie de l'OTAN, sont quand même des pays européens. Et là, je crois qu'on a envoyé un mauvais message à Moscou en ne parlant pas un tout petit peu plus de l'environnement immédiat de l'OTAN et de l'Europe, et de notre Europe, puisque ce sont nos voisins, les voisins, l'Ukraine est le grand voisin de la Pologne en particulier, mais pas seulement. Voilà, donc je crains qu'on ait un petit peu envoyé un mauvais message à Moscou, et les Ukrainiens et les Géorgiens en sont un petit peu maris, je crois.
Amélie Zima, mauvais message envoyé à Moscou? Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit par Bruno Tertrais. En fait, ici, ce que disent les Polonais, c'est que le sommet Poutine-Biden ne va absolument rien apporter. On a eu des démonstrations de force à la frontière ukrainienne. On va avoir les exercices ZAPAD qui vont se dérouler en septembre. Donc, on a aussi l'implication russe qui a été prouvée dans l'explosion d'un dépôt de munitions en République tchèque. Donc, voilà, énormément d'actions russes agressives. Et Biden est vu d'une façon peut-être un peu trop accommodante. Notamment, par exemple, il a levé les sanctions sur la construction du gazoduc Nord Stream. Donc l'idée, c'est peut-être aussi que, même s'il a qualifié Poutine de tueur, il serait un peu en train de reproduire peut-être les erreurs de l'administration Obama, dont il était vice-président, en pensant qu'en fait un dialogue est possible avec la Russie, alors qu'en fait la Russie n'a avancé sur aucun point. Et le sommet Poutine-Biden peut être vu comme une sorte de succès déjà initial de Vladimir Poutine.
On a vu la Russie. Il y a également un nouveau défi qui se pose pour l'OTAN. Ils en ont parlé d'ailleurs dans leur déclaration finale, ce nouveau défi, un défi systémique, c'est le comportement de la Chine. Selon eux, la Chine, qui a des velléités un petit peu trop expansionnistes, notamment en domaine commercial, on sait qu'il y a un bras de fer commercial qui traîne entre les États-Unis, entre la Chine. Les Européens, notamment Emmanuel Macron, avaient dit qu'on n'a pas forcément vocation à nouveau aujourd'hui à suivre la ligne américaniste pure, à suivre Washington les yeux fermés. Aujourd'hui, une déclaration finale, on fait bloc contre la Chine. Pierre Grosser, c'était le souhait américain, si l'on peut dire. Est-ce que c'est la bonne direction de l'OTAN aujourd'hui de se tourner vers un autre défi qui serait celui chinois et qui n'est pas forcément militaire, si on comprend bien?
De ce que j'ai vu, je suis désolé, j'ai vu assez rapidement les longues pages dont vous avez parlé. Il y a assez peu sur la Chine quand même.
Ils disent tout de même que ça représente un nouveau défi systémique.
Oui, bien sûr. Non, mais j'ai pas dit qu'il y avait rien, mais je veux dire, voilà, on ça fait un moment qu'on dit que le G7 transformé plus ou moins en G10 avec les trois pays de la région, Corée du Sud, Japon,
le G7 qui hier a déjà critiqué la Chine,
serait une espèce de grande alliance des démocraties contre la Chine, ensuite que l'OTAN se tournerait contre la Chine. On n'en est pas encore là, on peut pas dire que les États-Unis essayent complètement d'embrigader les Européens dans une croisade contre la Chine. Je crois d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que il n'y a pas de manière disjointe le problème russe et le problème chinois. Ce qui est quand même une contrainte géopolitique majeure aujourd'hui, ce sont les excellentes relations entre la Chine et la Russie, ce qui complique d'ailleurs la plupart des calculs, notamment des Américains. Donc ça, c'est le premier point, c'est que c'est pas complètement disjoint. Et la deuxième chose, c'est évidemment de dire que la question chinoise, c'est pas une question qui est seulement une question Asie-Pacifique, et c'est-à-dire ses progressions, ses problèmes aux frontières avec l'Inde, ses, en mer de Chine du Sud, Taïwan, etc., etc. Mais que le problème chinois à terme, parce que encore une fois, on n'en a pas fini avec la Chine et on est déjà étonné de tout ce qu'elle a fait depuis 20 ans ou 40 ans, ça dépend depuis quelle date vous mettez. Si vous voulez, c'est qu'on commence à penser à l'avenir et que pour le moment...
Alors la Chine le fait, elle a un objectif clair, Chine nouvelle 2050. Première puissance économique,
Bien sûr, elle le dit comme ça. Alors, il faut pas non plus imaginer que tous les Chinois sont train de se préparer à 2049 pour un succès immense de la République populaire de Chine.
Le parti a fixé le cap, en tout cas.
Voilà, bien entendu, il y a la volonté évidente de monter en puissance, d'être la plus grande puissance, et surtout, et c'est, je crois, ça qui est vraiment l'inquiétude que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est la perception chinoise de la déliquescence de l'Europe et des États-Unis, c'est-à-dire qu'on est en gros en difficulté économique, on l'a vu dans la gestion de la Covid qui était quand même pas terrible, j'ai pas dit qu'en Chine tout était parfait, mais enfin ils ont eu en tout cas cette perception. Donc il y a des vulnérabilités qui peuvent jouer sur ces vulnérabilités, et donc finalement, alors que traditionnellement on avait l'impression que c'était les Occidentaux qui empêchaient la Chine de monter en puissance, on a l'impression que c'est la Chine qui peut mettre des bâtons dans les roues de ce monde occidental. Et donc là, si vous voulez, je trouve que dans l'ensemble, on n'a pas cette impression-là d'une extension de l'OTAN à l'Asie ou d'une vision d'une OTAN, encore une fois, en ordre de bataille contre la Chine. C'est quand même encore européen, la Russie, et on insiste sur les dimensions transatlantiques.
Bruno Tertrais, la Chine doit être un nouveau défi pour l'OTAN avec son comportement récurrent, ou est-ce qu'il n'y a pas, comme nous le disait Pierre Grosset, d'extension vers la Chine, finalement, des préoccupations?
Non, il n'y a pas. Écoutez, il n'y a pas d'extension vers la Chine, et je pense que l'OTAN a suffisamment à faire pour ne pas avoir envie d'avoir des défis supplémentaires. Mais simplement, encore une fois, c'est la Chine qui s'impose à nous, c'est la Chine qui s'impose à l'Europe et aux États-Unis. C'est la montée en puissance de la Chine et surtout la manière dont elle intervient sur les marchés, dans les investissements, dans les entreprises, dans les infrastructures, dans les communications et aussi dans la sphère informationnelle. On l'a bien vu en France, et pas seulement en France. Les diplomates chinois sont extrêmement agressifs aujourd'hui, essayent de manipuler l'information d'une manière qui sied à leur gouvernement, mais qui ne va pas forcément dans le sens des intérêts européens. Et je veux dire que ça a été un petit peu un réveil pour beaucoup d'Européens de réaliser que, leur sécurité, et Pierre Grosset le sait bien, il travaille là-dessus depuis très longtemps, et moi aussi, leur sécurité se joue aussi en Asie. On peut agir à distance via le cyberespace, via les communications, via les réseaux sociaux. Donc l'OTAN est obligée de tenir compte de la Chine, même si le champ géographique de la défense de l'OTAN, c'est-à-dire le principe du un pour tous, tous pour un de l'Alliance Atlantique, ça reste ce qu'on appelle la zone du traité de Washington, à savoir l'Europe, les États-Unis, le Canada et l'Atlantique Nord. Autrement dit, l'OTAN ne s'engagera pas en tant qu'alliance militaire dans un conflit en Asie de l'Est qui opposerait par exemple la Chine et les États-Unis à propos de Taïwan.
Amélie Zima, le mot de la fin, il nous reste une minute pour conclure. Priorité donc, numéro 1, la Russie. En fait, je vous en prie, allez-y.
Oui, voilà, la Chine n'est pas du tout pensée de la même façon. Elle est présentée soit comme une opportunité, un défi auquel l'Alliance doit faire face, auquel l'Alliance doit faire face de façon unie aussi, puisqu'il ne faudrait pas que la Chine puisse exploiter là encore des divisions internes. La Chine pourrait être également une alliée pour réfléchir à toutes les questions de type contrôle des armes ou réchauffement climatique, mais il faut prendre aussi en compte que la Chine est bien implantée parmi certains pays de l'OTAN, et je pense notamment à la Hongrie, qui a été vaccinée avec la préparation chinoise. Il y a une université chinoise qui va être installée à Budapest, alors que le gouvernement Orban a expulsé l'université d'Europe centrale. Il y a l'ouverture de la 5G à Huawei, ou encore la construction d'une ligne de chemin de fer qui doit relier le Pirée à Budapest. Donc, on voit ici, avec ce cas hongrois, l'implantation de la Chine au sein d'un pays de l'OTAN. Et donc, il y aura une difficulté aussi à penser une réponse collective face à ces défis-là.
19h58, ici à Paris. Voilà la fin de notre débat. Déjà, merci à nos trois intervenants, bien sûr, Pierre Grosser, historien spécialiste des relations internationales, auteur notamment de L'histoire du monde se fait en Asie, aux éditions Odile Jacob. Merci Pierre Grosser. Merci à Amélie Zima, chercheuse en sciences politiques, rattachée à l'Université Paris 1, rattachée également à l'Université de Varsovie en ce moment, on l'aura compris. Merci Amélie Zima. Et merci à Bruno Tertrais, enfin, politologue, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de nombreux livres, L'Atlas des frontières, murs, conflits, migrations aux éditions Les Arènes, notamment. Restez avec nous sur RFI, dans 30 secondes, un nouveau journal.
Appel sur l'actualité, prenez la parole.